Europe 1. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1.
Émile a quelque chose comme une douzaine d'années. Émile habite à Lyon, il va à l'école, il est très sage et très bien élevé. Oh, il n'est pas comme les autres petits garçons de son âge. Ce n'est pas lui qui oublierait de se laver les oreilles ou qui volerait les pots de confiture. Ce sont des choses qui ne se font pas. Émile travaille dur à l'école. Il n'est pas très intelligent, mais consciencieux. Ses cahiers sont propres, son cartable bien rangé. Il ne marche pas dans les flaques et n'a jamais d'encre sur les doigts. Ses petits camarades ne sont pas exactement comme lui. Ils font des bêtises, ils mentent de temps en temps, ils cassent des choses et n'hésitent pas à lui faire des croche-pieds et à se battre pour la possession d'un ballon. « Ce n'est pas bien, dit Émile. Ce ballon n'est pas à toi, il est à moi. Je vais le dire au maître. Monsieur, il m'a pris mon ballon, monsieur, il copie. Monsieur, il a triché. » Il est énervant, Émile. Énervant. Émile a quelque chose comme une vingtaine d'années. Émile est au régiment. C'est une recrue sérieuse. Oh, il n'est pas comme ses camarades de chambrée. Ce n'est pas lui qui chercherait à éviter une corvée ou à faire le mur. Ce sont des choses qui ne se font pas. Ce n'est pas bien, dit Émile. C'est défendu de fumer après le couvre-feu. Je vais le dire à l'adjudant. Il est énervant, Émile. Énervant. Émile a quelque chose comme 25 ans. Émile est marié. C'est un bon mari. Il est énervant. Il a des enfants, il a un emploi, des voisins. Il est toujours aussi énervant. Il épluche les comptes, vérifie les quittances de gaz, minute son temps de travail, surveille le concierge. Dans la vie, dit-il, il faut de l'ordre, de l'honnêteté et de la justice. Moi, Joseph Émile Piton, je respecte ces principes et j'exige que les autres les respectent. Nous l'appellerons Joseph Émile Piton. Il ne s'appelait pas Piton. Mais il n'aurait pas aimé que l'on parle de lui en ces termes. Il ne supportait pas la critique, ni la contradiction, ni le désordre, ni l'injustice. En fait, il ne supportait pas non plus, avant tout, d'être Joseph-Émile Piton, tout simplement. Bonjour monsieur, je suis Joseph-Émile Piton, votre locataire du rez-de-chaussée, pour un loyer mensuel de 430 francs. Monsieur, j'ai cru comprendre que vous disposiez présentement d'un appartement à louer au quatrième étage de cet immeuble. Je désire m'entretenir avec vous de cette possibilité. Joseph-Émile a 40 ans. Nous sommes en 1926, il a le cheveu rare mais bien peigné. Une moustache blonde et mince comme un trait dédaigneux sur une bouche pincée, double menton, col cassé, habit noir, l'air d'un bourgeois avantageux et bien pensant. La seule chose qui détonne dans cette silhouette stricte et impeccable, c'est le teint. Presque rouge. Un teint de coléreux, à la limite de l'apoplexie. Un teint qui fait désordre. Tout ce qui est bien rangé chez cet homme, du binocle à la pochette de soie, de l'épingle de cravate aux manchettes, semble prêt à exploser à chaque minute à cause de ce teint-là. Monsieur Dichamp, propriétaire de l'immeuble 6 au 82 rue Rochechouart à Paris, connaît relativement peu ce locataire. Joseph-Émile Piton est parisien depuis 1925. Depuis 1925, il habite avec sa famille un petit appartement meublé dont il paie scrupuleusement le loyer le premier de chaque mois. Selon son habitude, il remet à Monsieur Dichamp une enveloppe contenant 430 francs et attend le reçu qu'il vérifie soigneusement avant de saluer. Mais la conversation s'arrête là, si j'ose dire. C'est donc la première fois que les deux hommes ont un entretien. Monsieur Dichamp est disposé, en effet, à louer cet appartement du quadrille. Puis-je visiter les lieux, je vous prie? L'appartement est vide, non seulement d'occupants, mais de meubles. Et c'est cela qui intéresse Piton, car depuis 5 ans, son mobilier personnel est en garde-meuble. Contraint d'occuper à son arrivée à Paris une location meublée, il n'est pas satisfait de cet état de choses. L'appartement me convient. Je dois vous prévenir que je loue cet appartement meublé. Meublé? Mais il est vide. Si je consens à vous céder cette location, cher monsieur, c'est à la condition que vous l'acceptiez meublé. Joseph-Émile Piton devient rouge. Mais le propriétaire est inébranlable. Son raisonnement est simple. Il ne court pas après les locataires. C'est la crise, comme on dit. Il y a surenchère. Si Python veut passer du rez-de-chaussée au quatrième étage, il y passera avec les meubles du rez-de-chaussée. C'est ainsi qu'un appartement vide peut se louer meublé. D'ailleurs, ajoute le propriétaire, je loue l'appartement, mais je vends les meubles. C'est à prendre ou à laisser. Mais vous n'avez pas le droit. Mais, cher monsieur, je ne vous oblige pas à accepter. Ah ben oui, évidemment, c'est facile. Quand on est propriétaire, on a tous les droits. C'est odieux, c'est de l'escroquerie pure et simple. On profite du besoin des autres, sans vergogne. Joseph-Émile Python n'est plus rouge, il est violé. Mais monsieur, si je reste locataire de mon rez-de-chaussée meublé, avec les meubles que vous voulez me vendre, vous serez bien obligé de louer celui-là vide à quelqu'un d'autre. C'est possible. Mais je ne suis pas pressé. Et d'ailleurs, vide, je le louerai plus cher si ça se trouve. D'ailleurs, j'ai des propositions, je n'ai qu'à choisir. Finalement, si je vous donne la priorité, c'est que vous êtes déjà mon locataire, je n'y suis pas obligé. Ah, il faut reconnaître qu'il est tentant d'étrangler ce monsieur. C'est du chantage, ni plus ni moins. Joseph-Émile Python préfère sortir. Il lui faut de l'air. Mais il lui faut aussi cet appartement. Trois enfants et une femme dans un rez-de-chaussée minuscule, ça ne peut plus durer. Ce désordre permanent, les récriminations, la promiscuité sont insupportables. Tout est insupportable, y compris l'existence de Joseph-Émile Python, la terre entière est contre lui. En réalité, il a tout raté. Une entreprise d'import-export à Lyon, un premier mariage, une installation en Indochine, et ses deux dernières situations. Il ne le sait pas, il ne le comprend pas, mais il a énervé tout le monde. Avec sa manie de justice, d'intégrité, l'orgueil de ses opinions, l'intransigeance de ses idées, il n'a pas cessé, depuis qu'il est né, de se heurter de front contre des murs de difficultés. Un exemple, qui ressemble étrangement à sa situation présente d'ailleurs. En rentrant d'Indochine, il achète des meubles d'occasion vendus 2400 francs. Il fait un chèque de 2400 francs au vendeur, puis fait opposition sur ce chèque, et il en fait un autre, de 698 francs 05 centimes. Ça ne valait pas plus. J'ai fait moi-même l'estimation. Au tribunal, le juge est d'un autre avis. Enfin, monsieur Python, de deux choses l'une. Ou il ne fallait pas accepter, ou il fallait faire expertiser le lot. Il y a des gens compétents pour cela. Mais je suis compétent pour estimer la valeur d'une table façon citronnier, de quatre chaises et d'un buffet. Et je n'ai pas à perdre mon temps avec des escrocs. Il y a les gens honnêtes, comme moi, et les autres. Voilà. Quelqu'un d'autre que Joseph-Émile Python n'aurait pas acheté les meubles, et on n'en parlait plus. Lui, si. On veut le voler. On va comprendre. Python ne discute pas avec les escrocs. Python démontre. On a sa fierté, et il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut que quelqu'un mette le haut là, autrement. Où irions-nous, je vous le demande. On peut aller très loin en réalité. Et ce qui vient de se passer rue Rochechouart entre M. Dichamp, propriétaire abusif, et son locataire susceptible, ira très loin. Ne croyez pas cependant que l'un va étrangler l'autre, ou l'autre étrangler l'un, non. Bien qu'il en meure d'envie, en ce qui le concerne, Joseph-Émile Python est un homme consciencieux qui aime faire les choses dans les règles. Étrangler M. Dichamp serait prématuré. Vous allez voir comment un petit dossier comme celui-là, une broutille, un misérable litige entre particuliers, comme on dit, peut devenir un dossier extraordinaire pour peu que l'on ait affaire à un redresseur de tort comme Joseph-Émile Python. Donc, fidèle à ses principes, Joseph-Émile Python ne refuse pas de conclure l'affaire. D'ailleurs, il estime être dans son bon droit. Il a besoin de cet appartement. Cet appartement est vide, donc il a droit à cet appartement. Vide, bien sûr. Ici, je suis obligé de vous soumettre deux dialogues représentant deux versions différentes, celle de Joseph-Émile Python, en premier, honnêteté oblige. « Monsieur Dichamp, j'accepte votre marché, mais je ne peux payer comptant. »« Parfait, cher monsieur. Vous me devrez donc 30 000 francs. Nous allons signer un contrat de location-vente avec 12 % d'intérêt pour le crédit que je vous consens. Vous signez là. » Python signe. Le propriétaire ne lui donne pas de double du contrat dont il conserve l'unique exemplaire. Autre version, celle de M. Dichamp. Je consens à vous offrir une location-vente pour la somme de 12 000 francs et 10 % d'intérêt pour le crédit. Python signe, Mais dans cette version non plus, il ne lui a pas remis le double du contrat. Le lendemain, 4 janvier 1927, Joseph-Émile Piton, de sa plus belle plume, adresse une lettre circonstanciée au procureur de la République. « J'ai l'honneur de déposer une plainte entre vos mains contre M. Dichamp, propriétaire avec une majuscule, 82 rue Rochechouart, Paris 9e, pour infraction à l'article 17 de la loi sur les loyers du 31 mars 1922, confirmé par l'article 13 de la loi du 1er avril 1926 ayant le même objet. Veuillez agréer, monsieur le procureur, l'assurance de ma très haute considération. » La bagarre va durer près de 3 ans et se dérouler en plusieurs actes jusqu'au drame final, le 16 septembre 1929, en plein palais de justice. Premier acte. Monsieur Braque, juge d'instruction, instruit le dossier Piton contre Dichamp et nomme un expert chargé d'examiner l'unique exemplaire du contrat. Il y est mentionné la somme de 12 000 francs. Piton dit « C'est un faux ! Dichamp a falsifié la somme, il y avait 30 000 francs quand j'ai signé !» Et il dépose une nouvelle plainte pour faux et usage de faux. Le juge demande donc à l'expert d'examiner le faux en question. D'après l'expert, la somme a été grattée, ou plus exactement, lavée. On distingue nettement la trace d'un 3 remplacée par le chiffre 1. Et bien entendu, Dichamp nie. Pour tenter d'arrêter ce petit contentieux, le juge essaie de raisonner Piton. Mais qu'il y ait faux, c'est possible. Mais vous étiez d'accord pour 12 000 francs. Pourquoi voulez-vous prouver à tout prix que ce contrat est de 30 000 francs? Vous n'avez aucun intérêt à cela, sinon de vouloir absolument payer 30 000 francs. Et c'est une question de justice morale, monsieur le juge. Je maintiens ma plainte. Mais comme Dichamp nie toujours, il faut une contre-expertise. Le contre-expert, ce sera monsieur Bell. Or, monsieur Bell n'est pas n'importe qui. C'est le directeur de l'identité judiciaire, le chef des laboratoires de la police, une autorité incontestée en matière de microscope. Toutes les expertises délicates, celles des plus grandes affaires criminelles de son temps, sont sorties de son laboratoire. C'est l'expert avec un E majuscule. Et il dit « Rien ne prouve la falsification. » En résumé, son rapport est exactement le contraire de celui de son confrère. Ah, c'est ça le problème avec les experts. On dirait qu'ils sont nés pour ne pas être d'accord entre eux. Jamais, et à aucun prix. Dans ces cas-là, c'est toujours le plus connu qui gagne, le plus célèbre, le plus inattaquable. Et Bell est directeur de l'identité. On ne met pas sa parole en doute. S'il dit blanc au nom de la justice, c'est que c'est blanc pour la justice. Non-lieu. Joseph-Émile Piton, le plaideur, est sommé de payer les 12 000 francs, prié de rentrer chez lui et de mettre son mouchoir par-dessus. Ah, c'est trop lui demander. Rendez-vous compte. Non seulement il va vivre sous le même toit qu'un faussaire, mais la justice est d'accord. À qui se plaindre maintenant? Vers qui se retourner? Il n'y a rien au-dessus de la justice. Piton est seul, tout seul, désespérément seul. Ce conformiste intransigeant, ce prince du « ça ne se fait pas » est condamné à vivre dans le désordre de ses principes sans pouvoir les faire triompher. Il en est malade. Son idée fixe l'empêche de dormir, de manger, l'empêche de vivre. Pendant des mois, il tourne en rond dans sa cage, à tel point qu'il en perd son emploi et fait fuir sa femme excédée des litanies qu'il débite à longueur de journée. La justice est pourrie, voilà maintenant que c'est moi le coupable, c'est moi l'honnête homme que l'on méprise, moi qui suis bafoué. La société court à sa perte. S'il y avait plus d'hommes comme moi, les voleurs dormiraient moins tranquilles, etc., etc., etc. Bien entendu, il ne perd pas espoir, le tribunal reçoit de sa part des kilomètres de lettres, d'une petite écriture serrée, méticuleuse, au style empoulé, bourré d'expressions toutes faites. Joseph-Émile Piton y expose la vérité sur son affaire. On lui répond toujours la même chose. Ce qui est jugé, il n'y a pas à revenir là-dessus. Pour le procureur, c'est « Je n'ai pas à revenir sur la décision du tribunal civil, souverain en la matière. » Pour le ministre, c'est « Je transmets votre lettre au service compétent. » Pour la présidence, c'est « Je transmets votre lettre au service de monsieur le ministre. » Alors, Joseph-Émile Piton, seul et abandonné de tous, se met à suivre un homme. Pendant des mois et des mois, il va raser les murs derrière lui. Il va le regarder rentrer chez lui, sortir de chez lui. Il va guetter ses allées et venues, surveiller ses déplacements. Planté sur le trottoir pendant des heures, il l'observera assis à son bureau, parlant, riant, discutant, faisant son métier. Sous la fenêtre de son appartement, il écoutera sa vie privée, comme s'il voulait tout savoir de cet homme, les moindres détails, comme s'il avait besoin de s'imprégner de son existence pour mieux la supprimer. Une telle préméditation est rare. Pensez qu'elle a duré presque 2 ans. 10 fois, le justicier Python eut l'avis de cet homme à portée de sa main, sur le trottoir, au restaurant, devant sa porte. 10 fois, il ne fit rien. Oh, ce n'était pas de l'hésitation, mais plutôt une façon de savourer son pouvoir sur cet homme. Ayant décidé de le tuer, sa patience était sans limite. Il est certain qu'il se sentait une âme de révolutionnaire, convaincu de la nécessité de supprimer l'oppresseur. Et comme tout révolutionnaire, il fallait à son geste une certaine emphase, un certain décorum. Pas question d'assassiner cet homme en douce ou de le faire tomber dans un piège. Pas question de l'empoisonner ou de le poignarder la nuit sans témoin. Non, ce qu'il faut, c'est une exécution publique. Le 16 septembre 1929, M. Bell, directeur de l'identité judiciaire, homme éminent et respectable, sort de chez lui, le front haut, le binocle d'or, l'air hautain et souriant. Il dit au revoir à sa femme et à ses 3 enfants. Les vacances judiciaires sont terminées, l'expert en chef reprend son service. Voici la lettre de Joseph-Émile Python expliquant le crime qu'il va commettre. Cet expert se moquait des juges. J'en avais la conviction et la confiance illimitée qui lui était dévolue m'effrayait quand je songeais aux conséquences que cet état de choses pouvait avoir envers mes semblables, plaideurs malheureux par sa faute, ou envers ceux qui auraient pu être victimes de son absence de scrupules. Il me restait une ressource. Déposer une plainte contre cet expert pour faux témoignage et complicité de faux. J'étais certain que cette plainte m'aurait mené tout droit au cabanon où j'aurais pu finir mes jours. L'appréciation de monsieur le juge m'a confirmé pleinement dans cette idée. Entre lui et moi, il n'y avait donc plus à hésiter. Et le dimanche 15 septembre, j'étais heureusement angoissé quand je vis aux fenêtres ouvertes de son appartement qu'il était rentré. Le lendemain, le drame s'accomplirait. Quand je vis ma victime, je n'eus pas la force de bouger, puis tout à coup, une force irrésistible s'empara de moi quand je me trouvais tout près de lui, et je tirai. Châtiment de l'honneur et du devoir méconnu. Jamais personne ne pourra savoir le bien-être moral et physique que j'éprouvais alors. Après une telle lutte, dont la description n'est qu'un pâle tableau, aucune phrase ne pourrait donner l'étendue du bonheur de la libération. Depuis, dans le calme, ma conscience ne m'a jamais rien reproché. Elle est heureusement calmée, mais il est triste d'être obligé d'en arriver là. En arriver là, c'est attendre que M. Bell descende de voiture devant le palais de justice, salue ses confrères et monte les premières marches du grand escalier. De 3 balles de revolver, le justicier Python soulage sa conscience comme au théâtre, sur les lieux mêmes où le traître a commis son forfait. Devant les assises de la Seine, pendant 3 jours, en janvier 1930, Joseph-Émile Python défendra son point de vue. Maître Jean-Charles Legrand le soutient, mais c'est Joseph-Émile qui pérore. Il s'intitule « Champion de l'honnêteté » et il a écrit une longue déclaration qu'il récite, la main sur le cœur, rouge, à la limite de l'apoplexie, étouffé par son bon droit. Il énerve tout le monde. Les experts, encore eux, mais aliénistes ceux-là, ont des conclusions qui le font sauter de rage. En dépit d'un orgueil exacerbé qui fait de lui un paranoïaque, cet homme est responsable de ses actes, bien qu'ayant un jugement faux. Un juré qui s'inquiète de savoir si l'on peut avoir un jugement faux et être sain d'esprit, les experts répondent doctement, bien sûr, c'est possible et c'est le cas. Quant à Joseph-Émile Python, il tient d'abord à déclarer qu'il n'a subi cet examen mental que par déférence envers le magistrat instructeur qu'il avait ordonné, et il s'acharne à remettre la justice sur le vrai problème. Son contrat de location-vente était falsifié. Non seulement M. Bell ne l'a pas reconnu, mais il a détruit par ses expériences toute possibilité de le prouver. Et ça, voyez-vous, c'est exact. Curieusement, les moyens chimiques employés par M. Bell ont mangé le papier. Ils ont même fait plus que manger. L'endroit où est inscrit la somme est déchiré. Et curieusement aussi, le premier expert, M. Vigneron, celui qui affirmait que l'acte était falsifié, n'est plus expert. Lorsqu'il paraît à la barre, il explique. J'ai été convoqué par le président du tribunal civil qui avait trouvé étrange que j'ai communiqué mes conclusions à la partie civile, Python, avant le procès. J'ai dû donner ma démission. Tout ça n'est pas clair, mais les jurés ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour condamner Python aux travaux forcés en lui accordant quelques circonstances atténuantes. M. Dichamp, lui, n'est là qu'en témoin, en propriétaire honnête injustement mêlé à ce crime odieux. Lui n'a rien fait de mal, il n'est pas responsable. Pensez donc, il a eu la désagréable surprise de se voir menacé de plainte pour spéculation illicite. Python ne voulait payer que 2 000 francs la table, les chaises et le buffet. Il a envoyé un huissier. C'était son droit. Pauvre justicier, pauvre Joseph-Émile Python, pauvre redresseur de tort, pauvre fou. Un journaliste l'a rencontré à Cayenne des années plus tard. C'était le pot de terre matricule 50835.
« Monsieur le surveillant, c'est un tel, le 50836, qui s'est emparé de la ration du 50834 au mépris du règlement. Je suis contraint de vous le signaler. »
« Il est énervant, Émile. Énervant !»
Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.